Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode sur la théorie de l'attachement avec Laetitia Bluteau, psychologue et thérapeute ICV. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à la fois en m'écrivant un message sur Instagram ou par des petites étoiles sur iTunes Podcast, Spotify, etc. Bref, ça nous fait beaucoup plaisir. Merci, bisous. Comment on peut reconnaître son propre style d'attachement? Ça, c'est la question à 100 000 euros.
Ouais, alors, se pose aussi la question de l'intérêt de connaître son propre style d'attachement. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait connaître son propre style d'attachement. Il me semble que c'est plus intéressant de réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on utilise comme stratégie relationnelle. Comment est-ce qu'on se sent dans les relations? Qu'est-ce qu'on perçoit comme situation répétitive? Qu'est-ce qui fait souffrir? Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on est plutôt en mode de survie plutôt qu'en mode de connexion?
Ouais.
Et les styles d'attachement, en fait, ils donnent une grille de lecture qui permet un peu de s'y retrouver là-dedans. Et c'est intéressant dans le fait de sentir qu'on va pouvoir davantage cibler certains types de problématiques relationnelles plutôt que d'autres. Par exemple, de cibler la difficulté avec la proximité et d'y travailler. En particulier parce qu'on sait qu'on est plutôt sur un versant évitant de l'attachement. Mais après, je ne sais pas si c'est hyper indispensable de se dire ah, j'ai plutôt un attachement ceci ou un attachement cela, parce que ça a aussi tendance un petit peu à trop délimiter la façon dont on se définit.
Oui.
Ce que je trouve plutôt intéressant, c'est donc de comprendre les stratégies dans lesquelles on s'engage. Donc ça, c'est hyper important. De voir à quel endroit est-ce qu'on se sent en difficulté, on se sent stressé, on sent de
Rejeté, etc.
l'angoisse. Qu'est-ce qu'on a comme type de comportement qui sont répétitifs et puis qui bouffent un peu la vie, quoi. C'est-à-dire
Ouais.
que quand tu parlais d'être people pleasing, d'être tout le temps en train de rendre service et tout ça, souvent, en fait, ça va remplir un certain nombre de besoins affectifs sur le moment, à très très court terme. Et puis la répétition fait qu'on n'en peut plus, qu'on a envie aussi de recevoir un petit peu, que les gens vraiment, ils sont pas sympas, etc. Donc se responsabiliser soit sur comment est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on met en place, quel type de relation est-ce que on développe. Et bon, voilà, donc les styles d'attachement vont donner des grilles de lecture tout à fait intéressantes par rapport à ça, mais il ne faut pas
S'enfermer dans
trop
des cases non plus.
s'identifier là-dedans. Pas tomber dans les cases parce que j'entends aussi il y a des malentendus aussi autour d'étiquettes qui vont être posées et qui vont catégoriser les personnes par rapport à un style d'attachement et les accuser
Oui.
notamment. Ce que j'entends quand même assez souvent, c'est que les personnes qui sont plutôt sur l'attachement évitant souffrent énormément de ça, d'être pointées du doigt parce qu'en fait, ils portent finalement une sorte de responsabilité par rapport au fait que ben, la relation elle est prise dans de la distance. Et voilà, donc ils sont souvent pointés du doigt comme étant pas suffisamment à l'écoute, pas suffisamment empathique et tout ça. Je trouve ça dommage parce qu'en fait ils souffrent pareil. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est plutôt de regarder quelles sont ces stratégies de protection qui sont mises en place dans la relation. Donc, c'est de la survie. La proximité est tellement angoissante qu'il y a une mise à distance qui s'opère. Et comment négocier au sein de la relation davantage de proximité, davantage d'intimité, en fait.
Ouais, complètement, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est ce que John Bowlby dit apparemment, c'est que l'attachement sécure est quelque chose qui est déjà ancré en nous naturellement, c'est ça?
Ouais, pour moi, c'est une notion qui est assez fondamentale et qui rejoint cette notion de self authentique. Et c'est fondamental Vraiment de se représenter le fait que l'attachement insécure, c'est pas une identité. Ça, c'est mon leitmotiv. Pour moi, c'est vraiment important de le dire, de le répéter. C'est pas une étiquette, c'est pas une identité. C'est un mode de survie. C'est une façon dont le système a dû s'adapter à un certain environnement et s'est coupé du soi authentique. Mais le soi authentique, il est là. Et c'est justement ça qu'il est intéressant aussi de faire grandir, c'est de se sentir régulièrement, de s'observer quand on se sent pleinement soi-même. Peut-être à la fin de la journée, se poser la question à quel moment est-ce que c'était de la survie et à quel moment est-ce que j'étais pleinement moi-même? C'est-à-dire vraiment
Authentique,
en
quoi.
étant bien et en étant en connexion sans stress. Que celui qui va faire en sorte d'être trop gentil, il va être en connexion avec du stress. Donc, on n'est pas dans du self authentique.
Bien sûr.
Donc, oui, l'attachement sécure, il est là. Et il faut créer les conditions pour qu'il puisse se développer au mieux. Et même à l'âge adulte, c'est possible d'acquérir, de retourner, en fait. Diane Poole Heller, justement, elle parle de ça, de retourner à l'attachement sécure.
Hallelujah.
N'est-ce pas?
Amen.
Mais pour ça, il faut identifier les stratégies de survie qui sont à l'œuvre, qui pourrissent la vie, qui créent des problèmes. Et il faut pouvoir tolérer l'inconfort que représente le fait de ne pas aller dans ces stratégies-là. Parce que ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que ce sont des stratégies qui ont été indispensables quand on était petit, pour s'adapter à l'environnement dans lequel on était, pour avoir de la connexion, et que, mais en fait, c'est des zones du développement qui sont ancrées, qui sont marquées par le stress, et donc, quand il y a du stress relationnel, du trauma relationnel, selon le niveau d'intensité qui se présente, ça reste tel quel à l'intérieur de soi, même si on grandit. Même si on devient adulte, on garde ses empreintes précoces telles quelles. Donc après, c'est comme si la vie répétait en permanence ce qu'on a vécu quand on était petit. Parce que la réponse de stress, la détection du danger, elle reste la même.
Bien sûr.
Donc c'est important de pouvoir travailler là-dessus.
Complètement, pour sortir de certains cycles vicieux de notre vie et puis être plus authentique et plus heureux. Ouais. Complètement.
À fait, ouais.
Ouais. Parlons des MIO, des modèles internes opérants. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi ils sont très importants?
Bah, ça
Ça
fait
fait
justement
lien, hein?
partie. Ouais, tout à fait. Ça fait partie justement des pistes d'auto-observation qui vont permettre un petit peu de dégager de la cohérence autour de qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans un certain type de relation. Et notamment, donc les modèles internes opérants, c'est l'intériorisation des soins, de la qualité des soins qu'on a reçus quand on était petit, quand on était bébé, et qui vont se généraliser en schéma de pensée.
En
Donc,
croyance aussi, du coup.
tout à fait. En croyance, en schéma de pensée, tout à fait. Donc, si je suis un bébé qui est réconforté quand je pleure, quand j'ai mal au ventre et tout ça, maman vient, me fait un câlin et tout ça, je vais déjà commencer à intérioriser quelque chose de bon par rapport à ma relation avec la personne qui s'occupe de moi. Il va y avoir ce premier état et les modèles internes opérants, ils se mettent en place dans des situations qui sont répétitives. Et puis, en fait, ça va se généraliser, c'est-à-dire que ces soins vont continuer à être plutôt bons, il va continuer à y avoir plutôt de l'empathie, de l'écoute, de l'intérêt pour ce que je ressens. Et ça se généralise au monde extérieur, aux relations extérieures. Et donc les schémas de pensée, ils vont plutôt être positifs, plutôt agréables, du style je peux faire confiance dans les adultes, j'ai de la valeur, quand j'ai besoin, je peux demander de l'aide. Tout ça, ça s'intériorise en fait. Au début, ce n'est pas des pensées, bien sûr, c'est des sensations. C'est une cohérence qui s'installe dans la répétition des soins qui sont donnés au bébé. Et puis, En grandissant dans cette répétition, ça se généralise au monde extérieur et dans la vie en général, dans la confiance qu'on peut avoir à faire face à de l'adversité, par exemple. Et les modèles internes opérants qui sont plutôt liés aux attachements insécures, ils vont plutôt être donc plutôt négatifs, mais pas totalement négatifs. Il y a des zones qui vont être empreintes de stress, d'insécurité. Voilà, par exemple, un bébé qui va recevoir des soins de façon imprévisible, qui va se faire disputer je sais pas, en tombant du toboggan, le parent qui s'énerve et qui dispute, au lieu de réconforter, par exemple, tout ça se traduit en modèle interne opérant, donc en schéma de pensée, en croyance autour du fait que bah, j'ai pas de valeur, personne s'occupe de moi. Je dois me débrouiller toute seule. Si je me fais mal, ben, je dois supprimer ma douleur et ne pas la ressentir. Et ça se généralise au monde extérieur, dans ben, je peux pas faire confiance dans les autres, personne s'occupe de moi, les autres sont pas sympas. Il y a de l'hostilité dans les relations. Les gens, ils disent des trucs, mais en fait, ils pensent le contraire. Ils sont pas fiables, etc., etc. Après, ça se
C'est
décline évidemment à
bien sûr.
l'infini, hein. Mais il y a cette notion que la base dans laquelle on a grandi va donner une tonalité de l'ambiance dans laquelle on continue d'évoluer plus tard à l'âge adulte. On garde en fait
C'est point de
cette
repère.
ambiance-là.
Ouais.
Ouais.
Alors tu nous as dit de, enfin tu nous as conseillé de nous poser des questions pour justement augmenter notre conscience, mais comment en prendre conscience aussi à part ça? Est-ce qu'il faut à tout prix travailler avec un professionnel, par exemple, ou il y a certains exercices que nous pouvons faire, certaines questions aussi à se poser?
Des questions à se poser. Alors, oui, par rapport justement aux relations de proximité. Il faut savoir que plus la relation, elle est proche de soi et plus elle va activer de l'insécurité. Donc, surtout quand on a évidemment beaucoup d'insécurité d'attachement au départ. C'est pour ça qu'on peut se dire, ah, mais le mari de machin ou la copine de truc, elle est vachement sympa, c'est pas du tout la même chose que ce que je vis moi dans mon couple et tout ça. Oui, mais c'est parce que c'est pas une relation proche. Dès lors que la relation, elle devient beaucoup plus proche, donc où il y a cette notion de dépendance, ça c'est vraiment quelque chose de très important, ça va réactiver l'attachement et donc ça va réactiver du stress. Ça veut dire, cette personne dépend de moi, soit ça m'angoisse, soit, oh là là, il faut que je sois au plus près de cette personne-là, dans la relation avec ses enfants, pareil. Donc, ce qu'il faut faire, et les questions à se poser, c'est combien dans une relation de couple, par exemple, réfléchir, par exemple, en pourcentage, je suis bien combien de pourcents du temps avec cette personne-là? Et quand je suis pas bien, quelles sont les modalités de stress que je ressens? Et dans ces modalités de stress, quelles sont les pensées que j'ai. Par exemple, est-ce que mes pensées, c'est bah, évidemment, de toute façon, il va me lâcher pour quelqu'un d'autre, c'est une évidence. Est-ce que c'est oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est étouffante, qu'est-ce qu'il est, je sais pas, envahissant, c'est insupportable. Et déjà, ça donne une tonalité comme ça de comment est-ce qu'on fonctionne sur le plan relationnel. Dans une relation de couple, c'est vraiment important quand c'est très conflictuel, quand ça crée beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, c'est important de mettre à plat tout ça à deux et de pouvoir, dans un moment de calme, de pouvoir évoquer l'un et l'autre, qu'est-ce qui nous insécurise dans le lien? Quels vont être les déclencheurs systématiques dans la relation? Et en général, il n'y en a pas 36 000, hein, ça va être assez ciblé en fait, hein, ça va être autour de sujets très récurrents, très répétitifs qui vont être des nœuds relationnels. Il est très important, à mon sens, de pouvoir faire ce point-là, d'évoquer qu'est-ce qui génère du stress, en faisant sentir à l'autre que c'est pas fondamentalement de lui dont il est question ou d'elle dont il est question. Il s'agit de soi, de comment est-ce qu'on a grandi, de comment est-ce qu'on est réceptif à certaines problématiques dans la relation, ou en fait, on a un système de stress qui fait qu'on va dé détecter le danger d'une certaine façon, et que c'est pas l'autre qui est fondamentalement responsable de ça.
Ouais.
C'est super important. C'est-à-dire que le partenaire, c'est un déclencheur de choses qui
Qui sont en nous.
sont présentes en soi depuis beaucoup plus longtemps, avec lesquelles on a grandi, mais il n'est pas fondamentalement responsable de ce que je ressens. Mais, par contre, il y a une co-responsabilité dans la relation de qu'est-ce qu'on peut faire pour développer de la sécurité relationnelle. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. C'est, OK, sachant que c'est pas de toi dont il est question, que c'est mon histoire qui se réactive, est-ce que je peux te demander de faire attention à ne pas réactiver justement ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser cette problématique-là? Par exemple, si l'un des deux a besoin de beaucoup sortir seul, sans son partenaire, de dire, écoute, je comprends que tu puisses avoir besoin de sortir. Moi, ça m'insécurise parce que j'ai une problématique d'abandon qui date d'il y a longtemps. Comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour que ça soit moins difficile pour moi? Est-ce que tu peux me donner des nouvelles? Est-ce que tu peux me dire où tu vas, avec qui, sans rentrer dans une inquisition, hein, parce que ça,
Oui, bien
c'est...
sûr.
Et tout est question de dosage, de ce qui est entendable, tolérable pour l'un et pour l'autre, pour co-construire quelque chose de sécurisant.
Ouais,
Avec les enfants, c'est différent, parce que l'enfant n'est pas un co-constructeur de la relation.
ouais.
C'est le parent qui est responsable. C'est pas l'enfant qui est responsable. Donc l'enfant, en aucun cas, il ne doit soutenir son parent dans ses difficultés émotionnelles. C'est absolument pas son rôle et c'est dangereux de faire ça.
Ouais.
Donc là, c'est aux parents de se responsabiliser et de repérer qu'est-ce qui l'insécurise dans sa relation avec son enfant. Est-ce que c'est parce que du coup là il est dans sa période de 2 ans qu'il s'autonomise et que le parent il a l'impression qu'il sert plus à rien, donc ça l'insécurise et il ressent énormément de stress? Est-ce que c'est parce que il a l'impression que son enfant il se dirige vers d'autres personnes et qu'il se sent pas aimé? Et c'est toutes ces problématiques-là auxquelles il faut vraiment être attentif en tant que parent. Il faut vraiment observer ça et puis aller chercher de l'aide, hein. Là, si on n'arrive pas soi-même à se raisonner, à être dans une zone suffisamment cohérente de relation parent-enfant, donc il y a une notion de hiérarchie, ce n'est pas le même niveau.
Ouais.
Il faut demander de l'aide avec d'autres adultes. Ça peut être des groupes de parents, ça peut être des groupes de parole, ça peut être de la thérapie individuelle si besoin, ça peut être des lieux d'accueil parents-enfants, mais il faut réfléchir sur la relation.
Ouais. Exactement, et c'est ça va très bien avec ce qui va suivre, à savoir les parents, le rôle des parents. On
Oui.
a abordé donc le sujet, mais quels exemples de comportements des parents peuvent influencer les différents types d'attachement?
Ouais, alors, donc. L'attachement secure, on l'a dit avec
Ouais.
safe, seen, soothed, secure. L'attachement anxieux ambivalent, ça va être lié à quelque chose d'imprévisible de la part de la figure d'attachement principale. Imprévisible, ça veut dire qu'elle va être prise par des émotions variées, variables, être contente, faire la tête, être hyper joyeuse, être complètement effondrée. Il y a des oscillations
Très
qui sont
forte.
assez marquées quand même.
Ouais.
Rentrer du travail, faire la tête, on ne sait pas pourquoi. Et puis, donc l'enfant, il se sent comme dans l'obligation d'apaiser son parent, d'être justement, c'est dans cette... En fait, l'enfant, il est mis au même niveau que son parent. Il n'est pas suffisamment bien placé dans la hiérarchie des générations en tant qu'enfant, donc en tant qu'être vulnérable qui a besoin de protection. Le parent, il doit protéger. Très, très important. Donc, Voilà, c'est des parents qui vont beaucoup se confier, ça on en a parlé tout à l'heure, rechercher une proximité, rechercher le corps du bébé aussi ou de l'enfant pour faire un câlin, mais c'est pour satisfaire ses besoins
C'est pas pour
de
le
parent.
partager, ouais.
Non, c'est pas dans une notion d'être le parent qui s'occupe du petit. C'est oh, viens réconforter maman, viens faire un câlin maman, maman est triste, maman se sent pas bien. C'est plutôt ça.
Ouais, ah, c'est chaud.
Là, on est dans une inversion. Là, on est dans le bébé doudou, le bébé calmant, le bébé voilà qui vient réconforter son parent. Et du coup, ça, c'est une propension à s'occuper des autres. Et puis aussi être très à l'écoute de l'humeur de son parent qui va se décliner après dans les autres relations, d'être très à l'écoute, d'avoir des antennes comme ça sur l'ambiance dans la salle, l'humeur de la personne, et puis d'avoir des biais négatifs autour de ah bah s'il m'a ré pas répondu, c'est qu'il m'en veut, c'est qu'il est en colère, c'est que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Il y a cette intériorisation du fait qu'on nous en veut quelque part, qu'il y a de la colère et qu'il faut apaiser le parent pour ne plus ressentir ça parce que c'est très angoissant. Et donc à l'âge adulte, ça se répète. Et puis dans l'attachement évitant, ben, c'est ça, c'est en fait le parent qui va mettre à distance le contact avec des émotions surtout négatives de l'enfant, désagréables, tout ce qui est lié à de la détresse. Il va être très très mal à l'aise par rapport à ces émotions-là. Et du coup, il va pas réussir à donner une réponse adaptée, c'est-à-dire une réponse adaptée, c'est sécuriser, c'est faire un câlin, c'est pouvoir parler de ce que l'enfant ressent. Il va pas pouvoir faire ça parce que ça le ramène lui-même au contact de ses émotions qui est trop complexe. Et des fois, les parents, ils essayent de se forcer, mais en fait,
Naturel, ils
c'est pas
savent pas trop, c'est ouais.
émotionnel. Non,
Ouais.
c'est un peu mécanique. Donc l'effort est là, donc c'est important, mais ça rejoint pas le cœur, quoi. Il y a quelque chose qui est un peu coupé quand même.
Ouais.
Et puis l'attachement désorganisé, c'est les parents qui sont effrayants, donc qui ont des traumas non résolus, qui peuvent être pris par des addictions, qui ont des dérégulations émotionnelles très importantes et qui vont faire peur à leur enfant. Il y a vraiment cette notion de peur dans l'attachement désorganisé. Et la peur, donc ça peut être lié à de la violence, ça peut être lié à des abus. Ça peut être lié aussi à un niveau de dissociation très important chez les parents, c'est-à-dire que le parent, il est là sans être là. Il a un visage qui est incohérent avec ce qu'il dit, par
Ah
exemple.
oui.
Par exemple, il va vraiment tout faire, mais de façon automatique. Il va tout faire. Il va faire l'euro, il va donner le biberon, il va essayer de bien faire les choses, parce qu'encore une fois, hein, la plupart des parents, ils veulent bien faire pour leurs enfants, hein, c'est pas qu'il y a une volonté de faire du mal, mais c'est incohérent avec l'expression du visage qui va être morne.
Ah oui, oh là là, ouais. Ah, c'est fou.
Et donc ça, c'est très effrayant pour un bébé qui a besoin de mobilité dans le visage, qui a besoin, parce qu'en fait, la sécurité, elle touche aussi à comment est-ce que on bouge notre visage, comment est-ce qu'on est expressif, et notamment des yeux qui vont pas bouger, qui vont être assez, oui, le sourire
Ouais,
sans
exactement. T'as ce
le
sourire
sourire
quand
sans
t'es
faire
sourire dans
bouger
le
les
métro,
yeux,
t'es là.
par exemple. Oui, c'est ça. Oups, c'était un petit peu effrayant,
Ouais.
et pour un bébé c'est ultra effrayant, donc ça crée de la dissociation aussi chez le bébé. Il se freeze, il se
Ouais,
fige.
complètement. Alors, si de jeunes parents ou de personnes comme moi qui n'ont pas encore d'enfants écoutent cet épisode, quels conseils pourrais-tu leur donner afin de réussir, en tout cas d'essayer de réussir davantage à éduquer leur enfant de manière secure?
Alors, Si on a connaissance d'avoir vécu des expériences traumatiques, si on sait que ça a été vraiment compliqué quand on était petit, qu'on a vécu de la violence, qu'on a souffert, enfin qu'on le sait, qu'on a cette notion de récit autobiographique autour de la violence qu'on a subie quand on était petit, il vaut mieux attendre avant de faire des enfants et travailler en thérapie. Okay? Pour moi, ça, c'est vraiment très clair. Quand il n'y a pas de souvenirs dans l'enfance, qu'il y a des trous de mémoire qui sont très importants, qu'on n'arrive pas à se souvenir de ce qu'on a vécu quand on était petit, à mon sens, c'est important d'aller regarder ça d'un petit peu plus près, d'aller travailler ça en thérapie. Encore une fois, ça va plutôt être des thérapies qui sont... Qui travaille avec la théorie de l'attachement, la théorie polyvagale, les neurosciences affectives qui sont en lien en fait avec le fonctionnement du système nerveux autonome. Voilà. Donc oui, c'est si on sait tout ça, c'est important de faire ce travail. Et puis l'autre aspect, bien sûr, hein, c'est si on voit, on observe que on a des relations avec les autres adultes qui sont chaotiques, qui sont difficiles, ben il n'y a pas vraiment de raison que ça se répète pas avec l'enfant qu'on va mettre au monde.
Ouais, intéressant.
Donc, faut travailler à sa propre régulation.
Oh oui.
En fait, il faut faire sens, il faut comprendre, il faut faire sens. Et Dan Siegel, justement, il dit que le meilleur prédicteur de l'attachement sécure pour nos enfants, ça va être que, en tant que parent, on peut faire sens de son histoire, mais de façon cohérente, de façon complète. C'est-à-dire qu'on puisse sentir, savoir que quand on a une réaction, c'est parce qu'on a vécu quelque chose, qui est à la source.
Ouais.
Par exemple, quand on est un parent qui a été négligé, ignoré quand il était enfant, bah, on sait que quand on est ignoré, qu'on a l'impression d'être ignoré par quelqu'un, par son enfant ou son conjoint, on va avoir une réaction.
Ouais.
Mais le fait de faire ce lien-là, ça permet de désintriquer ce qui se passe aujourd'hui dans la relation du présent de ce qu'on a vécu et qui laisse une empreinte de quand on était petit. En fait, ça crée du sens. Ça fait que non, c'est pas l'autre qui est 100% responsable. Non, c'est pas l'enfant qui est responsable de comment est-ce qu'on se sent. C'est ce qu'on a absorbé comme information, comme insécurité d'attachement quand on était plus jeune, qui est encore actif dans le système.
Bien sûr, ouais. Non, tout à l'heure, tu parlais, enfin, à l'instant, tu parlais du mouvement du visage, et du coup, j'étais en train de penser à la prosodie qui est hyper importante. La prosodie, c'est l'intonation, je crois, l'intonation, en fait, la modulation de la voix. Et ça aussi, hein, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes pour un enfant, pour un bébé.
Et en fait, pour tout mammifère, pour
Oui.
tous les adultes, c'est les canaux qu'on utilise pour envoyer des signaux de sécurité ou d'insécurité. Et il faut savoir que notre cerveau, il est en train de scanner en permanence le niveau de sécurité dans lequel on se trouve. En permanence. Et Stephen Porges appelle ça la neuroception. Il a créé un nouveau mot pour nommer cette faculté qu'on a tous. Et la neuroception, elle va être tout à fait sensible justement à l'expression du visage, très important, au mouvement de la tête et à la prosodie. C'est vraiment les signaux fondamentaux qui vont envoyer des signaux de sécurité. Et puis, donc, il y a une étude qui est super connue et qui est, alors c'est très douloureux à regarder, mais ça s'appelle le visage impassible. C'est une étude qui a été menée par Ed Tronick, qui est un chercheur qui travaille sur la théorie de l'attachement. Et il s'agit justement de mettre un bébé face à sa mère, donc visage face à visage. Et puis, le bébé, il est là, etc. Il babille, il est dans justement cet échange, cette prosodie avec sa mère et tout ça. Et à un certain moment, on dit à la mère d'avoir un visage impassible, flat face. C'est horrible à regarder, c'est atroce.
Oh.
Et en fait, on voit, ouais. Et on voit le bébé qui développe toutes sortes de stratégies pour essayer de réanimer le regard de sa mère.
Oh.
Donc, elle emploie toute sa palette expressive pour chercher à retrouver en fait justement ces signaux de sécurité qui sont liés
Ouais.
à la mobilité du visage et à la prosodie. Et heureusement, l'expérience s'arrête au bout d'un moment. Ouf, parce que c'est vraiment dur à
Ouais.
regarder. Et quand la mère, en fait, elle revient dans le contact, ben le bébé, quand l'attachement est sécure, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de, y a pas de traces, il n'y a pas de traumatisme, parce que c'est un petit épisode, voilà, qui n'est pas du tout représentatif de la relation en général. Donc oui, la modulation de la voix est très, très importante. Et notamment quand quelqu'un est en gros stress, quand un enfant est en gros stress, faut laisser de l'espace, faire attention à la prosodie, au calme dans le visage, avec un petit peu d'expression, et d'avoir une voix mélodieuse, parce que c'est ça qui va aider le système nerveux de l'autre mammifère. Ça peut être un petit enfant dont on parle, mais ça peut être un adulte, à revenir dans sa fenêtre de tolérance.
Ouais, moi, je suis très très sensible au ton. C'est-à-dire qu'on peut me dire quelque chose qui
Ouais.
semblerait être positif, mais derrière, si le ton ne l'est pas, ça met mon système en alerte directement. Obligatoirement, très sensible à ça,
Mais
moi.
on écoute d'abord le ton plutôt que le contenu.
Ouais.
Et quand on a une neuroception qui s'est développée dans un contexte plutôt insécure, ça va être encore plus fort. C'est-à-dire que si on a vécu dans un environnement familial qui était un peu imprévisible, justement, où on ne savait pas tout à fait ce à quoi il fallait s'attendre, y a une hypersensibilité par rapport aux signaux qui est présente. C'est exacerbé et donc on va être très sensible. Et puis, alors, quand on a vraiment eu beaucoup de traumas d'attachement, ça peut être même complètement dérégulé. C'est-à-dire que le ton de la voix, il va être perçu comme étant atroce alors qu'il était juste un petit peu ferme parce que le système est tellement en mode de survie qu'il va quand même aller vers des biais négatifs. En
Ouais.
fait, il est le système, il est câblé vraiment pour combattre, pour se défendre, pour être en guerre.
Ouais. Mais tu vois, je me dis que c'est probablement pour ça que ma voix, elle chantonne beaucoup. Tu sais, elle est très.
Ouais.
C'est probablement lié à ça. Mais ouais, c'est marrant, hein, comment nos comportements sont influencés par justement nos propres peurs et. Je me demandais c'est quoi le mirroring, donc le mirroring, et en quoi c'est utile pour l'enfant?
Mais ça fait vraiment partie de ce qui est présent tout au début de la vie quand la relation se passe bien, en fait. La figure d'attachement, on va dire la mère encore, pour faire simple, va prendre son bébé dans ses bras, va le regarder et puis va moduler sa propre expression de visage par rapport à ce que le bébé exprime. Par exemple, si le bébé a mal au ventre, par exemple, il va faire une grimace. Et donc la mère, en fait, elle va faire la même expression que son bébé, mais de façon modulée, de façon très, très adoucie, évidemment. Donc le bébé va faire... Et puis la mère va faire... Mais il y a quelque chose, en fait, d'un effet miroir, mais comme si l'expression, elle était digérée, modulée, et le bébé, il reçoit en retour ce que lui, il exprime de la part de sa mère. Ça fait une
Ouais.
boucle, ça, qui fait, qui donne au bébé la sensation d'être compris, d'exister, d'être contenu et pas d'être perdu dans l'univers, dans le vide.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à suggérer aux parents quand il y a des petits problèmes relationnels comme ça avec leurs enfants, de les aider, d'aider les enfants, surtout quand il y a des crises répétitives que les parents ont du mal à élucider, de faire ça, de faire du mirroring, c'est-à-dire que l'enfant va dire ouais, j'en ai pas, j'en peux plus, et la mère ou le père, hein, il peut le faire, le père, hein, il va dire oh, je suis tellement désolée, oh là là, t'en as tellement marre. En fait, c'est d'être dans l'émotion de l'enfant au moment où elle se présente sans rien rajouter d'autre.
Ah, c'est marrant parce que
Et de
du coup,
faire un effet miroir modulé.
ça va lui permettre de quoi? De se sentir reconnu et ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Ok,
En
intéressant.
fait, c'est se sentir accueilli, reconnu, entendu, c'est magique,
Et donc
c'est un
sécure.
cadeau extraordinaire, mais c'est extraordinaire.
C'est marrant.
Il y a des thérapies qui se basent beaucoup sur le fait de reformuler ce que le patient exprime.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, de reformuler un petit peu différemment, de remoduler, ça permet à la personne de se sentir comprise.
Ah, oui.
Quand il y a des problématiques d'attachement, c'est qu'on ne s'est pas senti compris. On ne s'est pas senti rejoint véritablement dans son expérience. On a dû être en mode de protection, on a dû être au service de l'autre, on a dû se recroqueviller, mais il y a quelque chose de la relation qui a été coupé.
Ouais. Et c'est marrant, tu vois, parce que quand moi je suis en couple avec mon chéri depuis 14 ans, et effectivement, quand par exemple, je sais pas, il y a eu une incompréhension ou une dispute, du coup, je vais effectivement répéter un peu, me mettre à sa place, et je comprends que là tu t'es ressenti comme si parce que pas nanana. Tu vois, c'est marrant, je le fais ça, et je me dis, bah finalement, ça aide probablement à plus de compréhension, et en tout cas, ça calme un petit peu nos systèmes pour qu'ensuite on communique davantage et on se comprenne et qu'on fasse des bisous et des câlins.
Exactement,
Ouais.
exactement. Et le petit truc supplémentaire, c'est de le faire avec de l'émotion. Et des fois, c'est ce qui peut manquer dans les relations parents-enfants où les parents, en fait, ils vont lire des bouquins, ils vont écouter des trucs, ils vont les inspirer, ils vont essayer de mettre en pratique ce qu'ils ont appris autour d'eux, être à l'écoute et tout ça. Mais en fait, être à l'écoute avec de l'émotion, ben, ça crée de l'intimité.
Ouais.
Ça crée de la proximité et c'est super important. C'est-à-dire de reformuler, non, de ah oh bah ouais, j'ai vu que sans
En faire des
se
caisses,
répandre.
oui, bien sûr. Avec plus d'empathie,
Mais
finalement.
c'est que on est sur la même onde. On s'entend, on se ressent.
Ouais.
C'est voilà, c'est la rentrée des classes. Oh bah ouais, je suis désolée, c'était tellement bien les vacances. Oh,
Ouais.
tu as un câlin. Ça,
Ouais.
c'était ça, hein. C'était
J'ai
C'est tout
vu tous
frais.
les... J'allais me balader avant, j'ai vu tous les petits enfants, là, j'ai... Oh.
C'est ça.
Effectivement, ouais. Il y a dû avoir du chagrin, là, de la frustration
Ouais,
aujourd'hui.
ouais.
Des petites crisounettes à
Non.
8h du matin.
Non, ouais. Mais en fait, c'est plein de petits moments qui sont pas ils sont pas significatifs forcément, mais c'est une accumulation d'expériences. En fait, c'est une ambiance dans laquelle l'enfant grandit et il sent qu'il peut ressentir différentes choses et ça sera accueilli la plupart du temps.
Ouais. Ouais, c'est beau. Pour autant, hein, ne nous mettons pas la pression, nous les parents ou futurs parents, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de répondre à tous les besoins du bébé H24, on est d'accord.
Alors, quand on est dans cette disposition-là de se dire on répond à tous les besoins du bébé H24, ça pose question justement par rapport au stress, aux angoisses qui peuvent être présentes chez les parents. Donc, il faut répondre aux besoins du bébé, c'est-à-dire le plus qu'on peut dans la mesure du possible.
Bien sûr.
Il faut pouvoir réconforter, il ne faut pas laisser un enfant pleurer tout seul. Mais en effet, on ne peut pas être 24 heures sur 24 les meilleurs parents du monde. Ça, c'est illusoire, surtout quand on est un parent isolé aussi. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on est un parent isolé, c'est beaucoup plus stressant, beaucoup plus difficile de ne pas avoir de soutien de la famille élargie ou d'un partenaire de vie. Donc, ça, c'est des conditions aussi de vulnérabilité assez importantes. Qui est au contraire super important. Donc, c'est encore Edtronic qui a fait une étude justement sur la qualité de l'attachement et notamment sur de quoi est-ce qu'un enfant a besoin pour avoir un attachement sécure. Et il dit que c'est 30% de réponse des parents aux besoins de l'enfant. Mais le reste du temps, le parent, il n'est pas rejetant, évitant,
Bien sûr.
anxieux.
Ah ouais,
Non,
non,
le
là.
reste du temps, il répare. Le reste du temps, il répare ce qu'il a raté.
Ouais.
Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que la vie, c'est pas une. Enfin, comment dire? Quand on grandit, quand on arrive dans les relations à l'école, au collège, dans la vie d'adulte, on ne va pas rencontrer non plus des gens qui vont être à 100% accordés à comment est-ce qu'on se sent et tout ça. Il y a évidemment des frustrations et tout ça. Il faut que l'enfant aussi puisse faire face à une petite dose d'inconfort, mais en fait qui n'est pas dramatique parce que le parent, il répare derrière, il corrige et puis il ramène de la proximité et de la
Ouais.
sécurité. Corriger, réparer, ça veut dire, bah, voilà, un enfant qui a pas eu de réponse tout de suite, qui s'est fait mal et tout ça, puis l'enfant, le parent, il a pas vu, par exemple, et ben, il va s'excuser, il va dire « je suis désolée ». Ou alors, en tant que parent, ça peut arriver de s'énerver, de crier, c'est pas nécessairement la fin du monde à chaque fois. Si c'est tous les jours, oui, c'est pas
Ouais.
bien du tout, ça va pas du tout. Si c'est une fois que le parent, voilà, il n'en peut plus, ça peut arriver, mais il faut réparer, il faut pas laisser, en
Est-ce
fait,
qu'au contraire, ça
passer.
peut peut-être nous aider finalement à augmenter notre capacité, tu sais, à gérer de manière un peu plus sécurisée les challenges de la vie? Parce qu'effectivement, si toujours tout est smooth, bien, parfait, est-ce que du coup, dans le monde extérieur, ça va être plus compliqué de gérer nos adversités? Alors que si finalement, bien sûr, on a les 30%, même plus d'attachement sécure, mais que de temps en temps, on hausse le ton ou que voilà, on peut être un peu strict quand c'est nécessaire, j'imagine que l'enfant, il va comprendre plus de choses et en même temps augmenter sa capacité à gérer peut-être son stress, si derrière il y a la réparation, etc.
Alors, strict, pour moi, ça évoque des choses qui me plaisent pas trop en termes d'attachement. Strict, pour moi, c'est rigide, c'est froid, donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable au sein de la relation. Par contre, que ça soit ferme, que ça soit délimité, que les choses soient claires, que l'enfant, en fait, il ait un espace d'exploration, mais qu'il soit délimité, ça, c'est très important.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des interdits. Il y a
Voilà.
il y a toute une zone dans laquelle il est tout à fait possible d'explorer, et puis il y a des zones qui sont tout à fait interdites et que les parents protègent. Ils sont là pour garantir le fait que l'enfant, en fait, il soit dans cet espace de sécurité. Mais la question, c'était autre chose juste avant.
La question, c'était au niveau de l'attachement, tu sais, le fait que ça réponde à 30% des besoins exprimés par
Ouais.
l'enfant.
Ouais. Ouais. Oui, parce que en fait, si le parent il se dit faut que je réponde à 100% des besoins de mon enfant, ben il y a quelque chose de l'ordre de la codépendance qui peut se mettre en place dans la relation parent-enfant. Il faut que l'enfant il ait une zone aussi dans laquelle ça se fait pas un mois de vie, hein, ça se fait en grandissant, hein, ça
Bien
se fait
sûr.
petit à petit, hein. Il faut que l'enfant il ait une zone d'exploration qui s'agrandisse avec le temps. Cette zone d'exploration, ça va être sans le parent. C'est pour ça, le fait de se dire, il faut que je réponde 100% aux besoins de mon bébé, donc tout petit bébé, bien évidemment, c'est une période de vulnérabilité totale. Mais plus l'enfant commence à avoir des acquisitions, et plus il faut l'encourager justement. Mais ça peut être insécurisant pour un parent qui a besoin d'être collé à son enfant et qui
Ouais.
a du mal à le laisser en fait explorer et d'être le parent qui va délimiter, qui va dire non, dans lesquels il va y avoir une petite zone un peu conflictuelle, pas dans
Ouais.
le sens de dispute et que ça va pas bien et tout ça, mais dans le sens de non, je tiens sur le fait que cette zone, tu n'y as pas accès parce que c'est dangereux. Tout
Mais
simplement.
même le bébé, de temps en temps, au bout d'un moment, il a plus envie d'interagir. Tu sens qu'il détourne un peu le regard. Il a peut-être envie d'être un peu plus dans sa bulle, quoi. Ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais effectivement, il y a ça. Il faut respecter aussi
Alors
probablement le besoin du bébé.
ça, c'est un besoin depuis toujours. Les bébés, ils ont à la fois besoin de ce fameux contact visuel, de cette proximité, de cette chaleur, mais ils ont aussi besoin de se réguler en détournant le regard. Depuis tout petit bébé, parce que c'est très activant d'être dans le contact visuel. Donc, ils
Ouais.
vont après s'auto-réguler en se tournant, en mâchouillant les doigts, en regardant un petit peu et tout ça. Et il y a des parents qui vont se sentir insécurisés par
C'est
ça,
ça,
qui vont se
exactement.
dire, ils m'aiment plus, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qui vont prendre la tête du bébé, regarde-moi.
Et c'est important de
Donc,
savoir
ça,
ça, ouais.
ouais. Oui, c'est important de savoir que c'est de la régulation, en fait. Le bébé, il suit son mouvement interne C'est son système nerveux qui, en fait, lui donne la sensation de ce dont il a besoin. Il a une impulsion qu'il suit et c'est super important
De le
de
respecter.
le laisser faire, en fait. Ça, c'est de la bonne régulation. Et
Complètement.
après, en fait, hein, tout ce qui va créer des problématiques, c'est comment est-ce que les problématiques non résolues des parents s'infiltrent dans cette bonne régulation du début et va créer de la perturbation. Par exemple, en prenant la tête du bébé, en disant « Regarde-moi, je suis là. Bah quoi, tu m'aimes plus? Bah quoi, il est pas bon le lait ?»
Ouais. Comme quoi, il faut se renseigner et apprendre quelques points comme ça pour se réguler soi, réguler son bébé, co-réguler d'ailleurs ensemble et se sentir mieux et plus authentique et respecté et aimé dans sa vie. Hein. Donc c'est. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Là, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si tu penses à quelque chose, n'hésite pas. Et sinon aussi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te contacter au besoin.
Alors, ce que je voudrais rajouter surtout, c'est que le système d'attachement, donc je l'ai dit plusieurs fois, c'est un système de survie. L'insécurité relationnelle, c'est de la survie. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est très plastique, que ça bouge. Ça bouge dans les relations, donc ça bouge en s'entourant de personnes qui ont davantage de sécurité interne, donc qui vont pas être des activateurs comme ça de nos propres insécurités. Donc c'est mieux de dépenser de l'énergie, du temps avec des personnes avec lesquelles peut-être que c'est un peu moins intense, mais c'est plus sécure. De vraiment aller dans cette direction-là. De fréquenter des personnes aussi qui pensent qu'on mérite d'aller bien, qu'on mérite d'évoluer, de se développer, plutôt que d'être isolé, enfermé, mis à l'écart, pointé du doigt, enfin toutes sortes de choses affreuses. Donc la qualité des relations, quand on parle de co-régulation, elle est cruciale. Les personnes qu'on fréquente vont avoir un impact sur notre régulation interne. Donc ça,
Ouais.
c'est vraiment important. Et que ça amène à justement davantage de sécurité. Et puis, quand c'est trop difficile à gérer soi-même avec des bouquins, des lectures et toutes sortes de ressources, c'est important de pouvoir consulter. Et ça bouge, c'est vraiment ça bouge. Et avec les thérapies d'aujourd'hui, ça bouge pas en 20 ans. Donc, ça bouge, ça peut prendre quand même quelques années, entre 1, 3, 4 ans, mais on n'est plus dans des dispositifs à s'allonger sur un divan pendant 30 ans. Alors, ça, c'est vraiment.
Heureusement, tant mieux.
Voilà, heureusement, il y a vraiment beaucoup de connaissances aujourd'hui qui permettent de bien travailler l'attachement.
Ouais.
Voilà, moi en ce qui me concerne, je ne prends pas de nouveaux patients par contre, mais par contre je propose des ateliers qu'on peut me trouver sur mon site internet laetitiabuteau.fr.
Super. Bah merci beaucoup pour toutes ces explications, Laetitia.
Avec plaisir, Léna.